la chronique du Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine.
Un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie des territoires.
Sur Radio Vassivière. Dans cette chronique, on visite la vallée du Chavanon avec Sophie Catoire, chargée de mission au CEN.
Vous vous trouvez à Saint-Mard-les-Oussines, là où sont les bureaux du CEN, le Conservatoire des Espaces Naturels. Partez-en. Faites 40 km en direction du Puy-de-Dôme. Vous y trouverez la vallée du Chavanon, composée dans son bassin versant de paysages plats et de cours d'eau nombreux, et en Corrèze plutôt d'une gorge dans laquelle le Chavanon se la coule douce, puis se jette enfin dans la Dordogne. Le CEN y est investi depuis 2017. Nous avons rencontré Sophie Catoire, chargée de mission sur place, qui nous explique son métier et l'investissement du CEN.
On s'est investi là-bas parce que le conservatoire, contrairement à, par exemple, sur le plateau de Millevaches, on va beaucoup entendre parler du Longéroux, de l'étang de Chabannes, l'étang des Oussines. On a de nombreux sites conservatoires où on est présent depuis le début des années 90 autour de Saint-Mer-les-Oussines et de Millevaches. Mais par contre, sur cette partie du Chavanon, le conservatoire n'était pas du tout présent. Et donc du coup, ma mission à moi, c'est de développer l'émission du conservatoire sur ce territoire-là.
Et est-ce qu'on pourrait, vous pourriez nous vulgariser un peu l'histoire de la vallée du Chavanon? Parce que apparemment, il y a des anciens fours à chaux qui ont été fermés dans les années 30. Après, il y a une voie ferroviaire fermée dans les années 50. Et à quoi ça ressemblait?
Alors la vallée du Chavanon... Sur toute la partie aval du Chavanon, sur la partie corrézienne, il y a une ancienne voie de chemin de fer qui longe le Chavanon. Mais je ne saurais plus
la date
d'arrêt.
Pas de souci.
Je dirais dans les années 50, quelque chose comme ça. Et cette voie de chemin de fer, elle était et à la fois pour le transport de passagers, mais elle a été aussi développée à l'époque où les fours à chaux étaient en activité. Alors c'est une particularité, la vallée des Chavanons, ces fours à chaux, parce que des fours à chaux, ça existe que dans les zones où on a des massifs calcaires, de la roche calcaire. Ce qui est rare, puisqu'ici on est plutôt sur du granit, où cette particularité est possible en fait par la présence de filons, de marbre, notamment dans cette vallée, où, qui a permis le développement des fours à chaux et de la production de chaux, hein, à une certaine période. Alors pour faire un lien avec l'environnement, du coup, cette particularité géographique, géologique, pardon, elle va influencer aussi la végétation qu'on va trouver localement. Ce qui en fait une particularité pour la vallée du Chavanon, c'est qu'on va retrouver des plantes qui vont plutôt se développer sur du calcaire plutôt que sur des zones plus acides granitiques. Ce qui en fait une richesse plus importante au niveau du nombre d'espèces, des végétations qu'on va y retrouver. Et pour refaire aussi un lien à l'environnement avec la ligne de chemin de fer, cette ligne de chemin de fer, quand ils l'ont construite, ils ont aussi construit des tunnels le long du Chavanon. Ces tunnels en fait accueillent des communautés de chiroptères, enfin de chauves-souris. Donc ça a amené en fait une diversité assez importante pour cette vallée, qui est vraiment connue pour être un hotspot de biodiversité.
Je me demandais si, par rapport à l'habitat des chauves-souris, si ça entrait dans la catégorie habitat naturel d'intérêt communautaire.
D'intérêt communautaire, c'est une référence, c'est un classement européen.
Oui, c'est ça, c'est pour l'Europe en général.
Oui, c'est un classement au niveau européen et c'est une référence que nous, on prend pour considérer si le milieu est remarquable ou non, en général. En fait, il y a plusieurs listes, il y a plusieurs classements qui existent à différentes échelles, nationales, régionales, européennes. Et nous, dans nos diagnostics, pour pouvoir savoir si un milieu est remarquable ou non, si une espèce est remarquable ou non, en fait, on sait qu'on va se référer à ces listes, à ces classements. Et sur les tunnels, alors les tunnels en soi vont pas être reconnus comme un habitat d'intérêt communautaire, mais les tunnels vont être protégés parce que toutes les chauves-souris sont protégées, et puisque c'est leur habitat, de fait, du coup, le tunnel va être protégé.
Vous nous expliquez qu'il y a un territoire naturel, et en fait, qu'est-ce que fait le Conservatoire des espèces naturelles ?
Donc, ma première de mes missions, ça a été de répertorier les zones qui potentiellement peuvent être encore intéressantes au niveau de la biodiversité, avec la présence d'espèces ou de milieux qui deviennent rares.
Donc vous répertoriez les espèces. Pour jauger ça, vous allez compter le nombre d'espèces ou les espèces que vous trouvez de faune et de flore ?
Alors non, parce que c'est quand même un très vaste territoire. Donc ma première de mes missions, c'est de regarder ça sur cartographie. Donc en fait, je ne me rends pas forcément en premier lieu sur le terrain. Je regarde sur des photographies aériennes. À force de travailler au conservatoire, à force de faire du terrain, à force de regarder les milieux sur une carte, on finit par réussir à se rendre compte ou non si le milieu va avoir un intérêt ou pas pour nous en fait. Donc du coup, je regarde d'abord sur une carte et puis ensuite je me rends au fur et à mesure. Là, pour le moment, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est quelque chose qui est très chronophage. Et du coup, pour le moment, j'ai visité quelques zones où je confirme ou non, en étant sur le terrain, l'intérêt que ça peut avoir, en relevant la présence des espèces, en caractérisant, en décrivant en fait le milieu tel qu'il est. Et puis si effectivement ça confirme bien que c'est un milieu remarquable, qui donc rentre nous dans nos objectifs de conservation, eh bien on contacte les propriétaires pour leur proposer... Alors on a différentes solutions au conservatoire, soit ils peuvent nous vendre leur parcelle, soit on leur propose un partenariat type d'avoir une convention ou un bail à l'euro symbolique pour en fait acter un peu le partenariat et donner au conservatoire la possibilité et un certain droit de pouvoir accéder au terrain.
Le fait de les acquérir, ça les protège du rachat par d'autres personnes et de l'exploitation agricole ou d'autres choses ?
L'objectif qui est recherché, c'est bien ça, c'est que les milieux remarquables, qu'on appelle des milieux remarquables, en fait, c'est des milieux qui se raréfient. Et ils se raréfient par quoi ? Ils se raréfient par l'évolution de l'occupation des sols, donc par l'activité qu'il y a sur notre territoire. En fait, les milieux remarquables, ça va être... je vais donner un exemple. Sur le Chavanon, nos cibles particulières de milieux, c'est les zones humides. Et les zones humides, en fait, elles vont avoir différentes caractéristiques en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc, une zone humide, ça peut être exploitée, pâturée ou non pâturée. Ça peut être pâturée de manière extensive ou d'une manière un petit peu intensive. Une zone humide, ça peut être drainée ou non drainée. Voilà, en fait, il y a plein de situations, et nous, on recherche un certain type de zones humides. C'est les zones humides qui, aujourd'hui, ne sont plus exploitées, parce que ça a été des milieux qui ont été trop difficiles à l'usage pour les exploitants agricoles avec le matériel qui est utilisé aujourd'hui. Donc ce sont ce type de milieux que l'on considère comme remarquables, mais toutes les zones humides sont considérées comme remarquables, mais on ne va pas forcément toutes avoir la démarche de proposer leur acquisition.
Quand vous rendez sur le terrain, ce que vous faites, vous dites que c'est quelque chose qui est assez chronophage, mais quand vous rendez sur le terrain, vous faites quoi exactement ? Vous vous déplacez sur toute une parcelle ou vous restez surtout à un endroit à regarder ce qu'il y a ?
J'expliquais que il y a une partie de notre travail quand on n'est pas présent sur un territoire que on fait ce qu'on appelle de la prospection foncière, c'est-à-dire qu'on va essayer de repérer en fait les zones, les habitats ou les zones où il y a des espèces remarquables. Là, on va faire plutôt un passage pas forcément très fouillé, juste déjà pour se rendre compte et d'évaluer si effectivement ça présente un intérêt, même de poursuivre les prospections et de rechercher plus. Après, on est toujours à l'affût de voilà, toutes les observations qu'on peut faire, qui sont fortuites. On va les noter aussi et les inscrire dans une base de données naturaliste ou des bases de données qu'on a au conservatoire. Ensuite, au niveau terrain, on va avoir aussi d'autres aspects. Ça va être... Donc, quand on a acquis un terrain au conservatoire, on se doit, vis-à-vis des financeurs, de réaliser un diagnostic écologique plus approfondi. Du coup, nous, c'est ce qu'on appelle faire un plan de gestion. Et pour faire ce plan de gestion, du coup, il faut qu'on fasse du terrain pour aller voir les habitats, les décrire un peu en détail, faire des prospections pour trouver les espèces, avoir des listes les plus exhaustives possibles, par exemple sur les plantes qui sont présentes sur la parcelle, sur certains groupes d'espèces, par exemple les oiseaux, les libellules, les papillons. Et là, je vais dire qu'en fait, tout dépend un peu des compétences du chargé de mission. Donc, moi, par exemple, ma spécialité, on va dire qu'elle se porte plutôt sur les plantes. Après, je vais avoir d'autres compétences naturalistes sur les libellules, sur les papillons. Et donc, je vais faire des observations à la hauteur de mon niveau de connaissance là-dessus.
Quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous cueillez les plantes ou est-ce que vous les photographiez plutôt ? Ou est-ce que vous les dessinez ? En fait, comment vous faites pour recenser et travailler sur ces plantes ? Ou est-ce que c'est juste tout dans la tête ?
Je veux dire qu'il y a un peu de toutes les situations. Quand on pratique la botanique, au bout d'un moment, on sait reconnaître certaines plantes de mémoire. Parce qu'on connaît leurs caractéristiques, etc. Donc il y a toute une partie de plantes que je vais reconnaître de mémoire. Il y a une autre partie de plantes où je vais avoir un doute. Et du coup, si je sais que la plante... Alors après, toutes les plantes qui sont un peu rares, en général, on ne tombe pas sur un massif. Donc c'est toujours... Il y a 2-3 pieds. Donc on sait que... En fait, cette plante-là, elle va pas être accueillie parce qu'on voit bien qu'elle est... Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Je pense que c'est un peu la règle à avoir en tête, de se dire, si on observe autour de soi et que, en fait, il y a 10, 20 pieds de cette plante-là et qu'il n'y en a pas plus que ça, elle n'est peut-être pas accueillie. Mais nous, on va avoir en tête, nous, dans notre métier, on va avoir en tête, en fait, les plantes avant d'aller sur le terrain. On sait à peu près... potentiellement ce qu'on peut trouver. Parce que quand même, il y a des études qui ont été faites un peu partout sur notre territoire, déjà par le Conservatoire du Massif Central. Donc en fait, la connaissance botanique, elle est assez bien connue. On sait où se trouvent quand même les stations historiques de plantes remarquables. Donc on sait à peu près si potentiellement on peut trouver quelque chose de rare ou pas.
Ok.
Mais, donc, quand on voit une plante où on a un doute et qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pieds, ben non, je ne vais pas l'accueillir et je vais la prendre en photo, voilà. Et puis sinon, si j'ai un doute, parce que entre deux espèces, le caractère, il n'est pas évident à distinguer entre les deux, bien, soit je l'écueille pour pouvoir, à tête reposée, le regarder dans les flores, en fait, faire la détermination un peu plus tard. Ou alors, si je considère que là, sur le moment, j'ai le temps ou que je sais que le caractère est pas trop compliqué à déterminer, je vais prendre ma flore que j'ai avec moi. Donc, une flore, c'est un guide de détermination des plantes. Et puis, je vais le faire sur le site, okay. Directement.
C'est quoi ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? Ce qui, quand vous le faites, vous êtes genre, c'est pour ça que je fais ce travail ?
Ce qui me plaît le plus, ça va être quand je vais faire un suivi sur un site où on a fait des travaux pour justement restaurer de la biodiversité et qu'on va trouver une espèce qui n'y avait que quelques zones où elle se reproduisait et que bah, ça, c'est, en fait, c'est une nouvelle zone où elle se reproduit.
Ah, ouais.
Et bah, là, on se dit, voilà pourquoi je le fais, mon métier.
Okay. Et ça peut être quoi, ces travaux ?
Alors, là, pour l'exemple que j'ai en tête, c'est pas moi qui l'ai trouvé, l'espèce, mais c'est mes collègues. C'est une espèce de libellule qui est assez rare. Et on a fait, il y a 3 ans, des travaux de restauration hydrologique. Donc, on a bouché des drains. On a bouché des fossés qui avaient été faits dans une tourbière. Et pour faire ça, du coup, ça produit en fait l'effet de faire plusieurs mares, entre guillemets. Et dans ces petites pièces d'eau, bah, c'est là où, au bout de 3 ans, ça y est, on a les premières données de cette espèce qui n'avait pas, enfin voilà, qui représente une nouvelle zone de reproduction pour cette espèce.
C'était prévu au départ, ou ça a été une surprise 3 ans plus tard de dire ah waouh, les travaux qu'on a fait ont permis à cette libellule de venir, mais on n'avait même pas prévu ça.
Alors c'était pas l'objectif de départ, parce que l'objectif de départ c'était vraiment de restaurer l'hydrologie de la tourbière pour justement cet aspect régulation de la ressource en eau, etc. Mais on savait que potentiellement ça pouvait être favorable aux libellules, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit celle-là qui puisse être trouvée. Quoi.
Et vous, est-ce que vous avez une espèce de faune ou de flore dont la défense vous tient à cœur ou que vous êtes content d'avoir vu se reproduire ?
Bah particulière. Moi, je travaille depuis très longtemps sur les zones humides et c'est vraiment ce type de végétation. Quand je vois des tapis de Drosera ou quand je vois une plante vraiment liée à ces milieux qui, je sais, peut être du jour au lendemain disparaître parce que c'est vraiment lié à la présence de l'eau, ce sont des milieux que j'affectionne particulièrement et pour lesquels bah, j'en ai fait mon métier. Et puis, j'y tiens vraiment parce que pour moi, les milieux humides, c'est vraiment cette interface entre l'eau et la terre et qui sont vraiment les deux choses qui, en fait, qui donnent vie, en fait. Donc, pour moi, ça, en plus, c'est très symbolique.
Merci beaucoup, Sophie Catoir.
Merci.
Ainsi s'achève notre visite de la vallée du Chavanon avec Sophie Catoir, chargée de mission au CEN. Toutes les chroniques du Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine sont disponibles en réécoute
sur le site de Radio Vassivière et celui du Conservatoire cen-nouvelle-aquitaine.org.